Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à toutes et à tous. La narration dans les jeux vidéo, c'est quand même une drôle d'histoire. Parfois c'est essentiel, parfois c'est complètement dispensable. Qui n'a jamais passé une cinématique pour reprendre le cours du jeu et continuer à appuyer sur des boutons? Parfois, la narration d'un jeu semble aller à rebours de nos actes en tant que joueuse ou joueur. C'est ce qu'on appelle la dissonance ludonarrative. Et plus rarement, nos gestes en jeu semblent s'accorder parfaitement avec l'histoire qu'on est en train de vivre. Et ces moments restent gravés pour longtemps dans nos mémoires. La façon de raconter des histoires à jouer a beaucoup évolué ces dernières années, et j'ai voulu en parler avec Hélène Cellier, chercheuse et narrative designer, suite à la lecture d'un article qu'elle a écrit en 2020 dans les cahiers de la narratologie. C'est justement cette discussion que je vous propose pour cet épisode spécial entretien de Silence on Joue. Bonne écoute. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Cellier dans Silence on Joue. Donc Hélène, tu es narrative designer et chercheuse et tu travailles au sein du studio The Seed Crew qui est, tu fais de la recherche-création. On va parler de tous ces sujets, on va évoquer tous ces sujets lors de l'entretien. Pourquoi est-ce que je t'ai proposé de venir dans Silence on Joue? C'est parce que je suis au détour de mes recherches sur internet tombé sur un de tes articles que tu as écrit où tu évoquais toutes les notions de dissonance ludonarrative, de résonance ludonarrative, d'harmonie ludonarrative et finalement de comment les histoires, la narration dans les jeux vidéo peut s'ajouter ou se retirer presque du gameplay, des mécanismes de jeu. Et enfin, de toutes ces composants du jeu vidéo qui agissent entre elles ou sans interaction. Bref, je me perds un peu dans cette introduction, mais bonjour Hélène, déjà.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et pour la discussion.
Et donc, on va parler de la narration dans les jeux vidéo et de la recherche autour de la narration dans les jeux vidéo et d'une manière plus générale, parce que c'est aussi ton activité actuellement du narrative design et de toutes les problématiques qui entourent c'est un métier assez nouveau. Dans un de tes articles, tu dates par exemple des années 2010 l'apparition du terme de narrative design. Qu'est-ce qu'il englobe déjà tout ce vocabulaire de narrative design dont on parle effectivement de plus en plus dans les jeux vidéo?
Alors, les définitions sont très différentes d'un studio à un autre, d'une personne qui crée à une autre, mais de plus en plus semble se former un consensus sur l'idée que le narrative design ne porte pas seulement sur l'écriture des lignes de dialogue, qui serait plutôt de l'ordre du game writing, mais aussi prend en compte les questions de système dans le jeu et puis des autres signes sémiotiques que sont les images, les sons, le fait de doubler les textes, etc. Et que le narrative design serait la grande discipline qui gérerait tout ce qui a trait à la narration dans le jeu vidéo et qui comprend en partie le fait que ce soit un média interactif.
J'ai envie de revenir un peu sur ton origin story, entre guillemets, parce que tu as fait ta thèse sur littérature et jeux vidéo. Alors, ça a un peu évolué, tu t'es un peu spécialisé dans le narrative design ensuite, mais du coup, dès ce moment où tu commences les recherches, etc., il y a quelque chose de l'ordre des histoires dans le jeu vidéo. Comment ça t'est venu cette envie? D'où vient cette envie de s'interroger sur la manière dont le jeu vidéo raconte des histoires? Est-ce que ça vient des histoires? Est-ce que ça vient du jeu vidéo? Est-ce que ça vient d'autre chose?
En fait, très personnellement, ça vient du jeu de rôle papier
Ok.
que je faisais beaucoup pendant que je faisais mes études en littérature et sur lequel il n'y avait pas encore beaucoup de travaux. Et au moment où j'ai commencé ma thèse, en fait, j'ai commencé à lire des choses sur le sujet et c'est un champ qui était en train de se développer. Et par contre, j'observais des pratiques vidéoludiques qui me semblaient tout aussi intéressantes et un petit peu parallèles. Et je j'identifiais pas, au moins dans la sphère francophone, ce champ de recherche pris en charge par le champ scientifique dont je venais, c'est-à-dire la littérature. En fait, il y avait plein de travaux, mais qui venaient d'ailleurs et qui étaient en grande partie des travaux qui venaient du monde anglo-saxon.
T'as commencé ta recherche du coup dans les années 2015, vers là, quelque chose dans le genre?
2013.
2013. Ah, ça fait partie des longues thèses.
Oui.
Et donc, avant 2013, il n'y avait pas vraiment de recherche sur les systèmes narratifs, où c'était englobé sur les recherches plus générales sur le jeu vidéo?
En fait, il y avait beaucoup de travaux, notamment dans la sphère anglo-saxonne, qui avaient comme point de départ ce qu'on appelle le débat entre ludologie et narratologie. C'est une
D'accord.
appellation qu'on a, mais il n'y a jamais eu vraiment de débat. En fait, le champ scientifique s'est créé d'abord avec certaines figures qui venaient de la littérature, comme Espen Harset ou Janet Murray dans les fin des années 90, et qui ont commencé à s'intéresser aux récits interactifs. Puis dans les années 2000, notamment pour différencier l'étude des jeux vidéo de l'étude des films ou de l'étude des romans, et donc pour créer une nouvelle
Ouais.
entité, certains chercheurs et certaines chercheuses ont décidé que c'était bien de créer un nouveau mouvement qu'ils ont appelé la ludologie. Et dans ce mouvement, il y a eu des affirmations assez fortes du genre l'histoire, c'est que le papier cadeau autour du jeu, qui est assez connu. Et donc, le champ s'est structuré à partir d'une réflexion sur ce que c'est que l'interactivité pour le jeu vidéo, d'en faire une caractéristique fondamentale et d'essayer de peut-être mettre de côté un peu l'aspect narratif. Et puis ensuite, progressivement, c'est revenu dans le discours et dans les recherches. Je pense notamment à la thèse de Jesper Juhl qui dit que les jeux vidéo sont half real et dans cette moitié, parce qu'ils ont des mondes fictionnels. Donc on n'est pas dans l'idée de narration, mais on est quand même dans l'idée de d'un monde fictionnel, donc de narrativité.
D'accord. Moi, je reviens sur une petite anecdote parce que ce sujet, et les auditrices et les auditeurs de Silence on joue le savent. On parle beaucoup de narration dans les jeux qu'on critique dans Silence on joue. Et c'est vrai que tous les systèmes narratifs, tout. La manière dont, dont les composantes sont imbriquées en termes de jeux vidéo, entre d'un côté les visual novels, de l'autre côté les jeux à embranchement façon Quantic Dream où on prend une décision, l'histoire va dans une autre direction, etc. D'autres grands champs qu'on peut retrouver dans Oxenfree, dans les jeux Telltale évidemment, où il y a une histoire plus linéaire mais avec cette impression, alors nous c'est notre vocabulaire, mais qui donnait l'impression de devenir réalisateur finalement de son jeu. En plus d'incarner finalement un des personnages, on avait aussi une sorte de regard un peu réalisateur, un peu externe sur quelle direction narrative on veut donner au jeu. Bref, toutes ces questions-là se posent aujourd'hui. Mais dans ce que tu viens de dire, cette opposition entre les mécanismes de jeux vidéo et la narration qui arrive en papier cadeau, qui est juste décorative finalement au-dessus. Moi, ça me rappelle quand j'ai commencé à travailler sur les jeux vidéo l'année 2001, j'avais été embarqué dans une triste histoire de conférence sur la narration et les jeux vidéo, c'était à Beaubourg, je crois que c'était fin 2001. Bref, je passe sur les détails, mais je m'étais retrouvé un peu malgré moi à devoir écrire un texte et à devoir présenter ça en public. Et en deuxième partie, il y avait Benoît Socal, donc le dessinateur et le réalisateur de jeux vidéo qui était là. Il était là pour présenter il arrivait avec un des premiers trailers de Siberia qui allait sortir quelques années plus tard. Et bref, il devait faire la deuxième moitié de la conférence. Et moi, j'avais fait à l'époque tout un truc sur narration versus interactivité. Et toute cette discussion qu'il y avait dans le jeu vidéo à l'époque, parce que il y avait ce truc de oui, les joueurs ont le contrôle du jeu, mais donc est-ce qu'on peut vraiment raconter une histoire qui va prendre en compte les actions du joueur, c'est-à-dire une histoire interactive au-delà d'une histoire à embranchement qui est compliquée à gérer et en plus qui met des embranchements à des endroits prédéfinis, c'est-à-dire que toutes les autres actions entre les embranchements du joueur n'influent pas sur le récit. Et il y avait toutes ces discussions toute cette tension entre l'interactivité et la narration. Et moi, j'arrive à le dater, mais peut-être qu'il est daté différemment. Alors, en tout cas, dans le grand public, je trouve qu'il y a l'arrivée de Telltale avec The Walking Dead et tous les jeux qui ont suivi, où finalement, ils ont totalement déplacé le débat. C'est-à-dire, ils ont dit non, mais il y a une histoire, mais il y a une interactivité narrative qui est là avec une seule histoire. Est-ce que, voilà, je me suis encore perdu dans mes questions, désolé, mais est-ce que cette tension entre l'interaction et la narration, c'est un sujet dépassé aujourd'hui ? Est-ce qu'on est passé à autre chose ?
Je ne pense pas qu'on soit passé à autre chose. Je pense que c'est une question qui est travaillée de manière différente, en fait. Okay. Je suis complètement d'accord sur Telltale comme un des marqueurs qui permet d'identifier un changement dans les discours. Je pense que plus généralement, autour des années 2010, avec les nombreux jeux indépendants qu'on dit narratifs, il y a toute une vague comme ça qui, en fait, vient montrer de façon concrète que de toute façon, on peut lier narrativité et interactivité et que maintenant, il faut s'interroger sur comment le faire et quels sont les effets. Et c'est de là d'où le discours change, évolue à mon avis. Et notamment, il y a une notion qui émerge ou qui s'amplifie à peu près à ce moment-là aussi, qui est la notion de dissonance ludonarrative. Et on va plus simplement opposer narrativité et puis interactivité, mais on va penser le fait qu'il y ait d'un côté une structure avec les mécaniques de jeu qui serait plutôt du ressort de le ou la game designer, et puis une structure narrative qui serait du ressort du narrative designer ou de la narrative designer.
Donc, on parle de Telltale. Ah oui, déjà, tu as dit ce mot-là, la dissonance ludonarrative. Dans l'article sur lequel je suis tombé et pour lequel je t'ai invité, c'est une notion qui est arrivée avec, je retrouve mes notes, oui, c'était Clint Hawking qui était directeur créatif chez LucasArts et Ubisoft, qui avait écrit un un article autour de la narration dans BioShock. On avait ce choix dans BioShock d'aider, de libérer ou de tuer les petites sœurs, si mes souvenirs sont bons. Et pour lui, en fait, c'était un faux choix. En fait, le fait de les tuer allait complètement à l'encontre de la structure du récit. Et finalement, pour lui, ça créait une dissonance ludonarrative, c'est-à-dire le jeu raconte une histoire et par son gameplay permet au joueur d'aller contre le récit qu'il raconte. C'est bien ça.
Oui, en fait, je pense que l'exemple de BioShock est très intéressant, mais peut-être un petit peu compliqué.
C'est vrai.
L'exemple qui est pris le plus couramment pour l'expliquer dans l'industrie, c'est si tout le récit nous dit qu'on est quelqu'un de gentil, un héros, voilà, comme on peut le trouver dans plein de jeux vidéo, mais qu'on passe notre temps dans le gameplay à tuer des gens. Et y a deux discours qui se font en même temps, en fait.
Ouais.
Et c'est ça qu'on appelle une dissonance ludonarrative.
Je crois qu'une des dernières fois où j'ai utilisé, c'était Uncharted 4. J'ai utilisé dans Silence on Joue, je pense que je l'ai utilisé, mais parce qu'il y avait ce truc où, effectivement, il y avait Nathan Drake qui est le héros sympa, par définition, qui fait des blagues, qui a son meilleur pote, qui sauve des gens, etc., et qui bute la moitié du Luxembourg en nombre de personnes sur l'intégralité de ce jeu. On a l'impression que c'est un concept qui a été écrit, qui a été étudié, et en même temps, des dissonances ludonarratives de ce genre-là, c'est monnaie courante dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est vraiment un handicap, entre guillemets, pour un jeu d'intégrer cette dissonance-là ?
Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, très souvent, encore dans le processus créatif, le narrative design n'est pas la discipline qui vient à l'origine de la création. Et donc, du coup, il y a certains choix qui sont faits, qui sont des choix qui viennent d'autres besoins économiques, de marché ou même de game design, de respect d'un modèle, etc., qui font que quand on travaille dans le narrative design, on fait avec une structure qui est déjà existante. C'est la première chose qui explique l'existence de dissonance ludonarrative. La deuxième, c'est aussi l'idée que l'idée d'une cohérence, de quelque chose d'harmonieux, dont le jeu porterait un propos, qui aurait un sens, etc., à mon avis, c'est un discours qui est porté en particulier par certains créateurs et créatrices qui seraient, à mon avis, plus proches de la scène indépendante. Je ne suis pas sûre qu'on puisse juger toutes les œuvres vidéoludiques selon les mêmes critères parce que ce n'est pas les mêmes publics, parce que ce n'est pas... voilà. Et donc, du coup, peut-être que dans certaines productions, la dissonance ludonarrative n'est pas un problème parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas l'harmonie qu'on vient chercher dans le jeu, en fait.
D'accord.
Et la troisième chose, c'est que pour l'instant, souvent, la dissonance ludonarrative est présentée comme un problème. Parce que c'est quelque chose qu'on imposerait au joueur ou à la joueuse, contrairement à la dissonance cognitive qui est de notre propre fait. Et donc, du coup, ce serait quelque chose qu'il faudrait éviter. Mais en fait, il y a des jeux, et même des jeux qui ont des propos très forts, qui utilisent la dissonance ludonarrative comme mécanique pour... par exemple, faire sortir la joueuse du jeu et donc offrir une posture plutôt de réflexivité sur l'œuvre, etc.
Dans ton article, tu cites, je crois, Nier, notamment, où il y a un premier run, en fait, où en fait, le scénario change en fonction des runs et des détails apparaissent au cours du jeu où finalement le joueur doit ou la joueuse doit continuer à combattre alors même qu'il se rend compte que ses adversaires sont plus vraiment des méchants dans le sens manichéen du terme, en fait. Et donc, ça crée comme ça une distance. Et finalement, il y a aussi tous les jeux qui jouent sur le méta, qui jouent sur abattre le quatrième mur, où finalement, on interagit avec le jeu d'une manière différente, où on reprend sa posture de joueur, c'est-à-dire que le jeu ne cherche plus l'immersion, ne cherche plus au fait qu'on incarne un personnage, mais nous met dans la posture du joueur, et à ce moment-là, il joue avec ces données-là. Mais ce qui est intéressant, c'est, je trouve, dans ce passage-là, c'est plus finalement que la dissonance ludonarrative, c'est finalement son inverse, parce que la dissonance ludonarrative, avoir conscience que ça existe, ça pousse à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour, à l'inverse, que les mécaniques de jeu s'incorporent au récit, en fait. C'est ce que tu as la résonance ludonarrative.
Oui. Comment les mécaniques s'incorporent au récit ou comment le récit prend en compte les mécaniques. Parce que dans le travail de narrative design, notamment tel qu'il est conceptualisé par Emily Short, en fait, l'idée, c'est de travailler sur des actions qui sont faites en jeu et qui sont représentées par des verbes. Et c'est vraiment quelque chose d'assez courant dans l'industrie de penser en tant que verbe, mais ces verbes sont là pour délimiter un registre d'action de la joueuse sur lequel on va pouvoir faire émerger le récit, faire émerger le monde, donc faire du world building. Et tout va être pensé d'abord à partir de qu'est-ce que la joueuse fait en jeu concrètement.
Okay.
Et donc après, comment est-ce qu'on fait émerger tout ça?
Et ça se passe, du coup, concrètement, ça se passe comment? C'est quand on est au moment de la conception des structures narratives et comment ça se construit avec le jeu, on commence par les verbes.
Oui, pour prendre un exemple très concret,
oui.
Dans les pratiques traditionnelles du world building, quand on le fait pour le cinéma ou pour un roman, il y a une pratique qui est de poser plein de questions de répondre à plein de questions sur le monde.
Okay.
Quels sont les personnages, quels sont, je sais pas, les coutumes, voilà, et puis on écrit un petit paragraphe. Dans le jeu vidéo, travailler à partir des verbes d'action, ça voudrait dire, ok, on veut faire un jeu dans lequel, je ne sais pas moi, la mécanique principale, c'est la téléportation. Très bien.
Okay.
Donc du coup, la joueuse va avoir un bouton pour se téléporter. À partir de là, il faut se demander, est-ce que c'est un pouvoir spécifique de l'avatar? Est-ce que d'autres personnages font la téléportation? Du coup, qu'est-ce que ça veut dire une culture dans laquelle il y a la téléportation? Qu'est-ce que ça change sur la vie quotidienne, etc. Et donc, à partir du verbe, on va penser comme ça toutes ces questions de world.
D'accord. D'accord. Donc, en fait, la mécanique de jeu devient une base de travail pour la construction, la narration environnementale, la narration, le récit lui-même, etc. Ce qui est intéressant dans les exemples que tu donnes dans ton article, justement, c'est qu'on se rend compte aussi que les exemples de jeux qui arrivent à ce niveau de résonance ludonarrative, intégralement, c'est des jeux hyper marquants, en fait. Que cette harmonie ludonarrative, quand elle existe, j'ai donné l'exemple, j'ai essayé de le faire sans spoiler, c'est compliqué, mais l'exemple qui... en tout cas dont on parle très régulièrement, c'est Brother Tale of Two Sons, où il y a un élément de gameplay qui disparaît à un moment, et à un moment du scénario, cet élément de gameplay, ce contrôle réapparaît, on doit aller le chercher presque, j'essaye de pas trop en dire, en même temps je pense que pratiquement tout le monde y a joué, en tout cas si vous y avez pas joué, jouez-y, prenez quelques heures pour y jouer, revenez écouter la suite de ce podcast ensuite, comme ça on sait tous de quoi on parle, mais cette mécanique revient, et par la mécanique, le scénario prend une ampleur totalement folle, c'est-à-dire, et ça crée un moment, mais un des moments mémorables, de sa propre histoire de joueur ou de joueuse, en fait. C'est fou ce que ça crée.
Oui, je pense que c'est une bonne façon d'aborder la création de jeu parce que c'est une façon qui respecte toutes les disciplines. Mais aussi, je pense que c'est une façon intelligente aujourd'hui parce que, en fait, c'est mémorable parce que la plupart des jeux ne le font pas.
C'est ça.
Et donc, du coup, dès qu'en tant que joueuse, on se retrouve confronté à une expérience qui va lier mes perceptions physiques, notamment grâce à la manette, mes perceptions de l'histoire et ce que je fais concrètement comme action, on va avoir l'impression de quelque chose de particulier. Peut-être que si toutes les productions vidéoludiques le font dans quelques années, on aura moins cette sensation d'émerveillement. Mais là, effectivement... c'est quelque chose qui, je trouve aussi assez marquant.
Dans ton article, tu cites des passages d'un jeu Telltale, d'ailleurs, dont on reparlera peut-être, Wolf Among Us. Tu cites Oxenfree aussi, qui a cette capacité-là. Par Oxenfree, on s'en souvient, c'était l'exemple, je crois que les créateurs l'appelaient comme ça, le Walking and Talking Game, c'est-à-dire un jeu où on parle en marchant, et c'était vraiment ça, mais où la mécanique était tellement bien pensée que... on faisait les deux en même temps. Pendant qu'on marchait, on pouvait choisir les discussions. Et il y avait comme ça un truc sur le fait de parler en marchant. Suite à ce que tu viens de dire, je pense que c'est exactement ça qui a dû se passer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans Oxenfree ? On parle et on marche. À partir de là, comment est-ce qu'on construit ? Mais du coup, il y avait une sorte d'aspect hyper concret aux personnages qu'on manipulait, en fait. Dans Wolf Among Us, tu cites un moment où le jeu propose d'arracher le bras, et puis normalement, c'était juste oui, non, on arrache le bras. Non, là, il fallait marteler la touche pour se rendre compte et pour donner à la personne qui tient la manette l'impression de vraiment faire un truc horrible. Finalement, c'était ça, par la répétition d'appuyer sur le même bouton. Alors, ça m'a fait penser à un passage que tu cites là, mais moi, qui est dans un autre jeu Telltale, dont j'ai énormément parlé, sans doute j'ai dû en parler 3 ou 4 fois dans Silence on joue, et puis j'ai dû en parler à d'autres reprises. C'est, je crois, dans le 4e épisode de la saison 1 de The Walking Dead, où il y a le héros comme ça qui doit enterrer le corps d'un enfant mort qui était transformé en zombie et qui est mort. Et en fait, il se retrouve comme ça devant le trou, et il doit juste, avec sa pelle, reboucher le trou. La seule interaction qu'on a, c'est à chaque fois donner un coup de pelle, mais à chaque fois, il faut appuyer sur le bouton. Et il y a une nouvelle fois le visage sur le personnage. Il faut réappuyer sur le bouton, et ça dure un petit bout de temps. Et juste par ces interactions-là, on obtient comme ça une résonance ludonarrative. Je savais même pas que ça pouvait s'appeler. Est-ce que, dans la manière dont tu regardes les jeux vidéo, est-ce qu'il y a aujourd'hui est-ce que c'est une quête pour les créateurs ou pour les narrative designers d'obtenir ces moments-là, ou c'est même de faire des jeux qui sont totalement résonnants? Enfin, je sais pas si... Parce que dans mon propre sentiment, c'est des moments, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre d'un moment, d'une scène, où ça prend son sens.
En fait, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à créer.
Ouais.
Et qu'on a tendance quand même encore aujourd'hui à attendre des expériences vidéoludiques qu'elles soient assez longues.
Mm-hmm.
Et donc, du coup, créer la surprise et ce moment de résonance sur du long terme, je pense que c'est vraiment pas évident. Mais que pour certains créateurs et créatrices, ça reste une envie. Comme ça, je trouve que ce que tu décrivais du discours des créateurs de Oxenfree est parfaitement juste. Mais après, encore une fois, ça dépend des contextes. Et je pense que c'est un des enjeux de la discipline à l'heure actuelle.
La discipline du narrative design.
Oui.
Comment se structure justement cette nouvelle fonction, ce nouveau métier, etc. Est-ce qu'il y a une méthodologie de narrative design qui se met en place, des choses à ne pas faire, des red flags, des choses comme ça? Est-ce que ça se structure? Il y a des discussions, il y a des endroits où les méthodes se confrontent, où on peut apprendre à faire du narrative design aussi?
Oui, alors c'est encore une discipline qui est en train d'émerger. Et c'est très intéressant parce que, en fait, par exemple, dans les livres de référence, notamment celui dirigé par Eisner, il y en a deux. Il y en a un en 2015 et un en 2019. Et on voit comment, à la fois, on cherche à définir le narrative design par cette volonté de prendre en compte tous les systèmes sémiotiques. Et dans la structuration des chapitres, on retrouve énormément de choses qui sont très liées à la scénarisation et qui viennent de disciplines créatives, narratives antérieures ou dans d'autres médias.
Mmh.
En même temps, il y a ça. Et en même temps, de plus en plus, on va trouver des offres de postes pour des narrative designers. Et quelquefois, ça va être précisé. Par exemple, moi je cherche un technical narrative designer qui va avoir pour une fonction de s'intéresser plus particulièrement au système de jeu, par exemple la création du système de dialogue, alors voilà que d'autres profils de narrative designer peuvent être différents.
D'accord.
Donc on a à la fois une logique de d'émergence de la discipline, une logique d'hyperspécialisation qui va avec le fait que le jeu vidéo est une industrie culturelle, et puis de plus en plus l'émergence aussi de pratiques d'enseignement du narrative design en tant que discipline. On trouve des cours sur Internet. Les formations vont de plus en plus faire cours sur le narrative design.
Dans tes différentes recherches, je crois qu'on a dit le terme au début, j'ai dû l'évoquer. Tu as décidé, ça m'intéresse, c'est tu as fait donc une recherche, une thèse sur littérature et jeux vidéo. Tu es aujourd'hui narrative designer dans The Seed Crew. On en parlera peut-être sans doute dans la suite de cet entretien. Pour comprendre un truc comme le narrative design qui est en train de se construire finalement, il faut en faire soi-même, c'est ça l'idée. Il y a un des articles où tu parles de tes expériences sur les différents outils qui permettent de faire des aventures, je sais pas comment ça s'appelait, mais des jeux narratifs textuels. Il y a RNP, Twine et Quest. Et donc, tu as essayé de faire, tu as fait tes propres expériences qu'on peut retrouver sur ton site à toi. Il faut mettre les mains dans le cambouis pour comprendre comment ça se passe.
Oui, j'aurais tendance à conseiller ça. En fait, comme toute discipline du design, mais de manière vraiment générale, il y a un aspect très pragmatique qui invite à tester les possibilités et à prendre en compte les cadres dans lesquels on travaille. Donc là, par exemple, les cadres de logiciels, mais ça pourrait être aussi des cadres culturels ou d'industrie. Par exemple, on a déjà une structure de jeu qui existe et il faut faire avec et construire du sens avec quelque chose déjà d'existant. Tout ça, oui, c'est par la pratique, à mon avis, que on peut se familiariser.
Et d'une manière générale, est-ce que là je dis c'est purement intuitif, on revient à cette question de l'interactivité du récit et de la narration dans les jeux vidéo. J'ai l'impression que pendant tout un temps, il y avait ce truc des histoires à arborescence, des histoires à choix, les jeux dont vous êtes le héros et ce genre de système comme ça à arborescence. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, mais c'est peut-être juste une intuition, qu'on essaye de dépasser l'arborescence en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui se ressent dans le milieu? On sait qu'il y a encore Quantic Dream qui est très attaché à son système d'arborescence avec bonjour, vous avez 853 fins différentes et des milliards de récits possibles. Mais j'ai l'impression qu'on est à un moment où on essaye de dépasser ce système de pure arborescence.
Alors, à la fois, c'est encore quelque chose qui est de l'ordre de la pratique régulière quand on fait du narrative design que de faire des récits en branchement. C'est pour ça que je conseille de commencer par du twine, parce que ça permet de voir ces embranchements-là. Et en même temps, il y a des réflexions pour essayer de faire des choses différemment. Dans les conférences qui parlent de narrative design à destination des professionnels, on va notamment s'intéresser au rôle du procédural et de l'aléatoire dans la construction du récit. Sur la question, par exemple, il y a ce que Emily Short appelle des storylets, qu'on appelle parfois en français narramiettes. Et en fait, c'est des petits bouts de contenu qui vont être accessibles à la joueuse selon ses stats. En fait, il faut penser, c'est ce qui se passe dans Reigns, le jeu, et il faut penser aux cartes de Monopoly pour imaginer, on écrit des petits bouts de contenu comme ça, et c'est pas nous en tant que narrative designer qui décidons quand est-ce que la carte arrive, c'est parce que soit le hasard, soit parce que la joueuse a certaines stats qui la font arriver sur cette carte-là en particulier à un moment, qui fait qu'elle a cette petite portion-là du récit.
C'est dans Hadès, c'est comme ça que ça marche. Je sais pas si tu connais, si t'as joué à ce roguelike, mais c'est exactement ça. En fait, c'est le système Hades a toute une histoire, et c'est en fonction de là où on en est dans son parcours, dans les runs qu'on fait, on va avoir des capsules narratives qui vont se débloquer une fois entre chaque run. Finalement, c'est une sorte de la narration comme récompense, en fait.
Oui, et encore que dans Hades, il me semble, mais ça fait un petit bout de temps que j'y ai joué, c'est quand même assez linéaire la façon dont on débloque les petites scènes. Alors que dans les storylettes, ça peut être complètement aléatoire, d'où les cartes de Monopoly.
Ah oui, on tire, si c'est notre tour de tirer une histoire, on va tirer parmi les histoires disponibles, en fait.
Voilà, par exemple, si j'ai 6 en sagesse, je ne sais pas, j'ai un paquet de cartes dans lequel je peux piocher parce que j'ai 6, mais je ne sais pas laquelle va arriver. Et
D'accord.
donc, la construction du sens de l'histoire est laissée à la machine et à la joueuse. Et du coup, dans le narrative design, il y a moins de contrôle de ce qui va se passer après, de suite logique de causes et de conséquences, contrairement au récit en branchement, par exemple.
D'accord. Il y a un terme que j'ai découvert en lisant ton article, c'est le terme de récit enchâssé. C'est-à-dire que il y a le récit enchâssé, je me trompe peut-être, mais d'après ma compréhension, le récit enchâssé, c'est le récit qui bouge pas, en fait. C'est le fil rouge du jeu. Et en fait, il y a comme ça, il y a cette apparition de différents niveaux de narration. Il va y avoir le grand récit enchâssé, c'est-à-dire dans un tel-tel, c'est ce qui va nous amener du début de l'épisode 1 à la fin de l'épisode 5 des aventures de Clémentine et ce genre de choses. Et ensuite, il y a tout le reste. C'est comme ça que ça se construit aussi, c'est ce récit enchâssé qui bouge pas. Finalement, là-dessus, il y a peu de travail de design, ou je sais pas, peut-être qu'il y en a aussi du travail de narrative design sur ce récit enchâssé. Et après, c'est comment est-ce qu'on donne cette impression, je ne sais pas si c'est encore une fois si c'est le bon terme, mais on donne l'impression d'agir sur l'environnement, sur le jeu tel qu'il se déroule, sur sa vitesse, sur les rencontres, sur ce genre de choses.
Oui, en fait, le récit enchâssé, si je me trompe pas, c'est Arsenault comme concept. Enfin, c'est typiquement ce que tu décrivais avec, par exemple, la cinématique d'intro et la cinématique de fin.
Oui.
Alors, c'est de la scénarisation, mais il y a quand même du narrative design dedans parce qu'il faut déterminer où est-ce qu'elle arrive dans le récit. Parce que on a tous et toutes été frustrés de voir arriver une cinématique à un moment où on avait envie de jouer, où on était pris dans le feu de nos actions.
Clairement.
Et donc, du coup, il y a aussi un travail d'équilibre de où est-ce que je mets tel élément narratif et où est-ce que une cinématique va bien parce qu'elle permet une autre posture en tant que joueuse, ou est-ce que j'ai d'autres moyens, est-ce que c'est un dialogue, est-ce que je sais pas, c'est une quête, est-ce que enfin il y a plein de voilà.
D'accord. Il y a un des éléments qui, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment installé par Telltale, donc dans le début des années 2010, et qui s'est reproduit évidemment sur des Firewatch, sur quasiment tous les jeux narratifs qu'on trouve aujourd'hui, c'est les choix sans conséquences, notamment les choix de dialogue, qui vont permettre d'incarner un personnage, de décider de qui est le personnage dont on a le contrôle. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en colère? Est-ce que c'est quelqu'un qui est triste? Est-ce que ça va pas, justement, ça ne va pas dévier ce récit enchâssé? Mais en fait, on se rend compte, en tout cas moi en tant que joueur, n'ayant pas plus de réflexion que ça sur la construction de la narration que mon propre ressenti de joueur, rien que ces choix de type de réaction d'un personnage va nous permettre d'incarner quelque part, d'incarner le récit, alors que le récit il va tout droit, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est devenu un standard, alors que c'était quelque chose, je me rappelle encore des joueurs qui disaient, non mais c'est linéaire, c'est un récit linéaire, c'est nul, on n'a pas le choix, il n'y a qu'une seule fin, c'est un récit linéaire. Et je disais, non mais moi j'ai décidé de faire un personnage qui est en colère tout le jeu, et je trouve que c'est important aussi. J'ai l'impression que c'est devenu un standard, ce truc-là.
J'aime beaucoup la façon dont tu évoques ce joueur qui dit bon, c'est linéaire, ça n'a pas de sens, parce qu'il y avait la même chose comme discours dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on insistait beaucoup sur le sentiment d'agentivité, d'agency,
Ouais.
de la joueuse, c'est-à-dire la capacité à s'attribuer le résultat de ses actions. Et donc concrètement, on disait un bon choix dans un jeu vidéo, c'est un choix qui a des conséquences et c'est un choix dont la joueuse voit qu'elle a les conséquences.
Tel.
Voilà.
Ce choix aura un impact plus tard dans le jeu. Oui.
Et en fait, on est revenu là-dessus, on est en train de revenir là-dessus, notamment j'aime beaucoup l'article de Kat Manning sur les choix réflexifs, où en fait, comme ce que tu dis, et en fait ton expérience de joueur est parfaitement valide et super importante, parce que sur cette idée que rien que le fait qu'il y ait un choix, ça a du sens. Et le fait de choisir en tant que joueuse, même si ça n'a pas d'impact, ça me demande de réfléchir à la façon dont je veux que mon personnage soit, à ce que je veux projeter dans le jeu, comme tu le disais
C'est
très
ça.
bien. Et donc, du coup, ça a du sens et c'est intéressant. Donc, c'est une technique de narrative design qu'on va retrouver de plus en plus, effectivement, je pense. Et c'est pas juste du remplissage, je pense.
Ben non, c'est ça, c'est que ça crée, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant, parce que pour moi c'est aussi une découverte à l'intérieur du jeu, c'est, ah bah ben oui, mais rien que ça, rien que ce petit truc, parce que c'est bien écrit aussi, parce que ça, il faut qu'il y ait la qualité d'écriture, il faut qu'il y ait la qualité de cohérence avec l'univers, faut ce genre de choses, mais rien que cette façon, c'est là où je parlais de réalisation. Tout à l'heure, c'est la trame principale est peut-être écrite, mais je vais choisir la manière dont c'est filmé finalement, enfin, ou dont c'est mis en scène en fait. Il y a un autre truc moi qui me fascine que je trouve à chaque fois que ça arrive et ça arrive régulièrement dans les jeux, je suis là, waouh, il y a un truc fou qui se passe. Je crois qu'il y a récemment, il y a Norco. Je crois que c'était un jeu de 2022 qui a beaucoup fait ça. C'est à certains moments, dans des dialogues, on construit le passé du personnage. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, si c'est pensé ou tout ça, mais je sais que c'est de plus en plus. Les premières fois que ça arrivait dans les jeux, il y a un côté un peu. On se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un dialogue et oui. Je me rappelle, j'ai perdu ma mère quand j'avais 12 ans, ou alors, non, j'ai été très heureux avec mes parents jusqu'à l'âge adulte. Et on voit, mais oui, mais il y a un dialogue qui détermine le passé d'un personnage. Et de la même manière, ça se trouve, le scénario va pas impacter ça, mais la personne qu'on incarne va être différente. Je sais pas si c'est quelque chose qui a été, enfin, que t'as vu dans des jeux et que tu utilises toi-même dans ce que tu fais.
Dans Fallout, le début, on va construire un personnage comme ça avec des questions. Donc ça me fait penser à ça où en fait c'est la réponse à des questions qui va déterminer les stats du personnage que ensuite on valide ou non. Mais
C'est
en
vrai.
fait c'est alors là il y a une conséquence, mais c'est la même idée de le personnage est pas complètement une coquille vide. Mais il y a la place pour l'interprétation de la joueuse. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, cette entre-deux de, il y a des choses qui sont fixes parce que j'ai envie de raconter l'histoire de telle particularité, mais par contre, quel genre de sport, quelle relation, voilà, là, il y a des marges de manœuvre.
Est-ce que le jeu vidéo est pas en train de se rendre compte que l'agentivité dont tu parlais tout à l'heure va finalement plus loin que la simple conséquence sur la suite mécanique du jeu en fait? C'est prendre en compte ce qui se passe dans la tête de la joueuse ou du joueur. C'est intégrer ça à la logique du jeu vidéo lui-même.
Oui, exactement. C'est par exemple ce que dit Sarah Stang, si je me souviens bien, dans un article où elle dit exactement ce que tu décris. C'est-à-dire que, en fait, la gentilité, c'est avant tout la perception de la joueuse d'une histoire et la façon dont elle se l'approprie. Et ça peut se matérialiser juste, entre guillemets, dans la structure du jeu par tel choix, mais ça peut aussi se matérialiser par un récit intérieur et une construction du personnage, ou ça peut se matérialiser par des fanfictions. Enfin voilà, et c'est ça peut-être qu'il faut encourager. Et ça va dans le sens des productions récentes qui encouragent en fait les formes de narration prises en charge par les joueurs et les joueuses, notamment la narration émergente, où on va donner des bouts ou des éléments de narratif, par exemple dans Minecraft, des bouts d'univers, et ensuite on va laisser confier à la joueuse le rôle de construire toute la narration.
Mais il faut, bah, là c'est on est dans un cas extrême,
Oui.
c'est-à-dire grosso modo on vous laisse, quoique j'ai découvert avec mes enfants encore une fois que dans Minecraft il y avait quand même un lore qui était particulièrement vaste, mais on est dans un cas extrême où on pose la joueuse ou le joueur dans un monde et raconte-toi ton histoire en fait, c'est aussi ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre guillemets où ça me semble aussi compliqué de dire racontez votre histoire, mais dans un monde qui a déjà une histoire. C'est peut-être là aussi où c'est compliqué. Ou est-ce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées, des exemples pour vraiment donner cette impression de narration émergente au-delà d'un sandbox, d'un bac à sable façon Minecraft?
Alors, la narration émergente n'est pas toujours prévue par les concepteurs et
Ah oui.
conceptrices. Et ça demande de lâcher le contrôle, alors
D'accord.
que les disciplines du design, traditionnellement, ont plus tendance à vouloir contrôler. Donc, mais en même temps, de plus en plus dans l'industrie, on va trouver des réflexions sur prendre en compte l'expérience du joueur, l'UX, etc. Donc ça va aussi dans toutes ces réflexions-là. Et ça arrive dans tous les jeux à des degrés différents. Moi, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est dans Pokémon Go.
OK.
Théoriquement, quand tu prends une arène, quand tu combats les Pokémon, après tu changes la couleur de l'arène et elle devient bleu, rouge, etc. Mais il y a une pratique qui s'est développée récemment qui consiste à laisser l'arène blanche. Et il n'y a pas d'explication dans la structure du jeu de pourquoi l'arène est blanche, mais il y a des pratiques qui font ça, donc les joueurs et les joueuses y trouvent du sens et se l'expliquent à eux et à elles-mêmes. Parfois dans les structures en dehors. Et puis, pour les joueurs et les joueuses qui ne sont pas dans ces logiques-là, il faut qu'ils expliquent pourquoi est-ce que ces bons sang de bonsoir d'arène sont blanches.
Et donc c'est genre une c'est une habitude collective en fait.
Ben, parfois, oui.
Bah, j'aimerais juste pour cette peut-être la dernière partie de l'entretien, tu es dans la recherche création. C'est déjà c'est quoi la recherche création d'une manière générale? C'est intéressant, c'est quoi? C'est la recherche en faisant, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, c'est se dire que quand on parle, par exemple, de narrativité, c'est intéressant de décortiquer des œuvres existantes, mais par la pratique, on comprend aussi des choses et puis on peut tester des hypothèses, essayer de matérialiser des formes qui n'existent pas encore ou comprendre les limites des modèles existants en théorie. Et donc, la recherche-création, c'est en partie ça. C'est lier la création à la réflexion, la création et la pratique à la réflexion plus théorique.
Et est-ce que tu peux me raconter, par exemple, enfin, les réflexions ou un projet que tu as mis en place à The Seed Crew? Encore une fois, c'est donc un studio. C'est un studio qui fait que de la recherche-création? Tes collègues sont dans la même démarche?
En fait, plus largement dans l'équipe, on fait de la recherche-action, c'est-à-dire que je ne me positionne pas comme je suis chercheuse et donc je sais, et donc voilà. Mais plutôt, tous et toutes ensemble, on essaie de construire des objets, donc des jeux, et puis de produire du savoir sur ces objets et avec ces objets.
D'accord.
Donc du coup, c'est moi qui ai l'étiquette chercheuse parce que je viens du monde académique, mais en fait, on est tous et toutes dans cette démarche-là.
D'accord. Et tu peux donner un exemple de production, en tout cas de production sur le narrative design et les réflexions qui ont entouré un peu cette production-là?
Alors, je pourrais citer Recover, qui est un jeu sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais je pense que je vais plutôt parler de Alix et Yanis, la disparition d'Albert le hamster, qui est un petit...
J'adore ce titre. J'ai envie d'y jouer. Déjà, j'ai envie d'y jouer.
C'est un petit jeu pour les enfants qui va servir à la sensibilisation au validisme et à parler ensemble du handicap. Et donc, du coup, il y a toute une réflexion qui s'est faite. Donc déjà, beaucoup de lectures sur les disability studies et les critical disability studies, qui sont les champs scientifiques qui réfléchissent à comment est-ce que le handicap est notamment une construction sociale. Je le fais très rapidement.
C'est rapide, mais au moins, voilà. si les auditrices et les auditeurs veulent se renseigner un peu plus, ils peuvent maintenant.
Et donc, de la lecture sur ça, et aussi une réflexion ancrée dans le narrative design, et puis dans les recherches sur la narrativité du jeu vidéo, sur la posture qu'on adopte en tant que joueuse quand on va jouer un personnage qui est handicapé et qu'on va rencontrer d'autres personnages, et comment est-ce qu'on peut faire ça de façon sensible, et voilà. Et donc toutes les réflexions théoriques du départ donnent le jeu. Et puis le jeu, déjà l'expérience de créer le jeu vient questionner certains modèles théoriques, notamment se questionner sur l'utilité ou pas du concept d'empathie. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, une fois que le jeu est produit, il va pouvoir être mis à disposition, et ensuite on va pouvoir voir comment est-ce qu'il fonctionne, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, quelles hypothèses marchent ou pas, et ensuite on pourra... démarrer un nouveau cercle, un nouveau cycle de recherche.
Tu as parlé de l'empathie. C'est quelque chose... en quoi ça... Ça, c'est un mot dont on n'a pas encore parlé dans la discussion. C'est aussi... On connaît le mot en tant que tel, mais qu'est-ce qu'il vient faire finalement dans les notions de narrative design, de narration et d'interactivité ?
Il y a une grosse réflexion qui porte sur le terme d'empathie qui vient des créateurs et des créatrices queer, parce que en fait, on a souvent tagué leurs jeux comme des empathy games.
Ok.
Et il y a eu un fort mouvement de rejet de certains et certaines d'entre eux parce que, en fait, sous le terme d'empathie, on allait s'approprier leurs expériences à des fins très utilitaires. Vous jouez à ce jeu et puis hop, en 15 minutes, vous avez compris ce que c'est que d'être une personne queer. Voilà, merci.
Ouais. Super.
Donc du coup, puisque il y a eu cette réflexion, le terme d'empathie a beaucoup été questionné dans la recherche et dans ce milieu-là, en disant que c'était pas le bon terme pour définir la relation au personnage, mais il me semble que ça peut être un terme qui quand même permet de se rendre compte, notamment si on reprend la définition dans les neurosciences avec celle de Jean Desetti notamment, que l'empathie, c'est pouvoir avoir une résonance avec les émotions d'autrui, tout en gardant sa propre individualité et en sachant que nos expériences sont fondamentalement différentes de la personne à côté.
Okay.
Donc du coup, en fait, c'est un terme qui montre bien cette dualité avec l'avatar, qui est à la fois une partie de nous, parce que c'est le vecteur par lequel on entre dans le monde du jeu, et à la fois quelqu'un qui est pas tout à fait nous, parce que c'est quelqu'un, une entité qui existe déjà. Et donc, du coup, là, on est sur un point de questionnement qui est à la croisée du narrative design et puis d'autres disciplines comme ça. Et qui est particulièrement intéressante quand on représente des personnes qui sont marginalisées.
Dans cette vision, enfin, dans ces productions de jeux vidéo qui abordent des thèmes sociétaux, qui sont là, voilà, dans l'exemple de Alix et Yanis, la disparition d'Albert le hamster, c'est c'est vis-à-vis du validisme et ce genre de choses. Mais on a cette vision « serious game », entre guillemets, qui est là pour un objectif. On parle de persuasive games, c'est-à-dire on a des jeux qui doivent convaincre que tel comportement est le bon, tel comportement n'est pas bon. J'ai l'impression que finalement, cette façon peut-être de jouer sur l'empathie, ça va chercher ailleurs, en fait. C'est pour montrer autre chose.
Ce qu'on essaie de faire au studio, c'est plutôt des jeux autour desquels on peut échanger, qui vont poser des problématiques, poser des situations qui font réagir et comment est-ce que les joueurs et les joueuses vont s'emparer des situations pour construire un discours commun. Donc l'idée, c'est pas d'être dans une position moralisatrice ou d'avoir un discours descendant en disant « Ah là là, non, il ne faut pas faire ça !» Mais plutôt...
Moins 5 points.
Voilà, c'est ça, exactement. mais plutôt de dire bah, « Voilà ce qui se passe, il y a différentes options, qu'est-ce que ça vous évoque ?» Pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça collectivement? Et de en fait laisser les clés d'interprétation à la joueuse ou aux joueuses de façon collective.
Je vais revenir sur les structures de jeu parce que c'est aussi un des sur la narration dans les jeux. Pour une fois, j'ai une spécialiste devant moi, donc j'en profite. Il y a aussi une des mécaniques en termes aussi de ressenti émotionnel, mais où on est extérieur quelque part à ce qui se passe, c'est ce que j'ai appelé, alors je ne sais pas si c'est le nom officiel, mais les puzzles narratifs avec les exemples notamment des productions de Sam Barlow et Accidental Queens aussi, Normal Lost Phone qui permettait de faire ce genre de choses. C'est aussi dans les champs de recherche cette façon de mettre une histoire en puzzle et de voir ce que ça peut permettre aux joueurs, cette agentivité un peu bizarre qu'on a, de devoir reconstruire une histoire.
Je pense que de plus en plus, puisque la culture vidéoludique prend de l'ampleur et qu'on est passé par les stades de « je joue une histoire et je suis acteur ou actrice de l'histoire », maintenant, comme tu le disais tout à l'heure, on passe... Il y a aussi de plus en plus de productions vidéoludiques qui jouent sur « je suis la personne qui va déterminer des éléments de l'histoire ». Je pense au jeu récent qui s'appelle Storyteller,
oui,
dans lequel en fait on va mettre la joueuse en position d'écrivaine où on va agencer les différents éléments de l'intrigue. Je pense qu'il y a aussi cette idée que la culture vidéoludique a quand même des origines de culture participative et je pense aux modes, etc. Et en fait, c'est aussi une façon de s'inscrire dans cette lignée-là, peut-être. Mais ça, c'est des grandes hypothèses.
Oui, mais on a le droit. Et est-ce que, peut-être pour... faire un peu de prospective, je sais que c'est pas ce qu'aiment faire les chercheuses et les chercheurs, mais ce qu'il y a, on l'a dit et tu l'as répété à plusieurs reprises pendant l'entretien, c'est que toutes ces évolutions-là, ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que j'ai l'impression que la recherche observe ce qui se passe dans l'industrie du côté de la scène indépendante. J'ai l'impression que des fois, notamment c'était pas ma question de départ, mais je pars un peu au hasard, mais par exemple, quand Telltale est arrivé avec un peu ce côté sur les choix réflexifs, sur les choix comme ça, j'arrive pas à savoir si c'était vraiment conceptualisé de leur côté dès le départ, en fait. Qu'ils ont fait bouger un peu les lignes en faisant du narrative design sans le savoir, ou je sais pas. Mais on reste sur cette scène indé. Aujourd'hui, tu viens de citer Storyteller, on est... clairement en plein dans la scène indépendante d'aujourd'hui. J'ai quand même l'impression que l'industrie mainstream, elle regarde encore ça vachement de loin, en fait. La dissonance ludonarrative, nos problémos, enfin, on continue et c'est pas un problème.
Oui, mais c'est comme il y a des pratiques de jeu dans lesquelles, en fait, l'histoire, on s'en fiche un peu. Hein. Je connais plein de personnes qui passent les cinématiques, qui... Et en fait...
On a le droit aussi, c'est vrai.
Bah oui. C'est des pratiques de jeu qui sont courantes et donc ça a du sens que dans l'industrie, il y ait tout un pan qui dise mais en fait, on s'en fiche.
Sauf sur... et ça, c'est assez étrange. Encore une fois, c'est purement une intuition, mais j'ai l'impression que les très, très, très grosses productions, elles, réussissent à incorporer ce genre de choses. L'exemple de Red Dead Redemption 2, en termes, là, pour le coup, de résonance ludonarrative, de cohérence ludonarrative, est hyper fort. Même Horizon Zero Dawn, quand on voit la structure des dialogues et justement les choix réflexifs, j'utilise le vrai vocabulaire maintenant parce que je le connais, mais ces choix de dialogue qui donnent une couleur à Aloy, à l'héroïne et ce genre de choses, on commence à les trouver dans les très très grosses productions. Je sais pas si c'est...
Oui, d'autant plus que dans ces équipes-là, il n'y a pas une seule personne qui est en charge de la narration. C'est des équipes avec des personnes qui ont parfois leur spécialité et donc qui sont d'autant plus efficaces à créer comme ça une cohérence sur l'ensemble du jeu.
Mais j'ai l'impression que ça coûte cher de mettre de la belle narration dans les super prod, hein, en fait. C'est assez marrant parce qu'on trouve des belles narrations dans les jeux indés qui coûtent factuellement moins cher. Et j'ai l'impression que pour dépasser le cadre de la grosse production et de mettre de la narration là-dedans, il y a un step énorme, en fait. J'ai l'impression que c'est encore très compliqué de mettre de la narration complexe dans des très grosses prod.
Oui, bah ça veut dire souvent que le ou la directrice créative doit avoir une sensibilité à ces sujets-là. Ça veut dire que il faut impliquer une équipe dès le départ. Ça veut dire qu'il faut concevoir le fait qu'il y ait une équipe de narrative designer au même titre qu'une équipe de game designer, ce qui vient enrichir les équipes. Mais après, je dois avouer, je suis pas la meilleure personne pour parler des gros
Non, bien
studios.
sûr.
Mais...
J'ai bien compris. Est-ce que, on va terminer là-dessus, mais est-ce qu'il y a, justement, tu es dans cette recherche-création, est-ce que tu vois en, comment dire, ces histoires de choix réflexifs, on est encore, limite, on est encore sur des lignes de texte. Moi, il y a un truc qui me fait peur dans la narration en ce moment, lié à la narration, lié aux jeux vidéo. Il y a Ubisoft, notamment il y a quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, qui a dit qu'ils allaient commencer à faire parler leur PNJ grâce à l'intelligence artificielle. Ça semble un peu vain. Enfin, c'est pas un énorme retour en arrière.
Je pense que c'est possible que l'intelligence artificielle devienne un outil comme un autre pour la production d'écriture, comme par exemple maintenant on ne fait plus les embranchements ou très peu les embranchements à la main, on passe par des logiciels qui voilà comme Twine ou comme d'autres qui vont faire des branches. C'est possible que ce soit un outil qui soit utilisé dans l'industrie par la suite. J'ai l'impression que pour l'instant, les scénaristes sont moins chers à utiliser.
J'ai l'impression que ce qui se passe ces dernières années, c'est que la narration et toutes les évolutions de la narration, c'est parce que, on l'a dit, ça prend sens aussi quand c'est bien écrit, ça prend sens quand ça a du sens, tout simplement. Est-ce que c'est... Et encore une fois, juste, j'ai l'impression que les grands jeux, les jeux dont on se souvient longtemps et tout ça, c'est des jeux qui ont des structures narratives qui arrivent à cette résonance ludonarrative dont on parlait. C'est encore quelque chose que tu recherches, toi, dans un jeu, ces moments-là spécifiquement?
Je suis contente quand ils arrivent, mais je ne cherche pas particulièrement ça. Et sinon, il y a aussi d'autres jeux qui fonctionnent très très bien. Je pense à Dwarf Fortress, par exemple.
C'est vrai, on n'a pas
Oui.
parlé de ça, c'est vrai. Purement émergent, là, pour le coup, presque.
Voilà. Et
Procédural, plus qu'émergent, là.
voilà. Et qui, quand même, arrive à créer des moments, alors au bout d'un certain temps, mais arrive à créer des moments qui ont beaucoup de sens pour les joueurs et les joueuses. Donc, je ne sais pas si on se dirige vers de plus en plus de cohérence ou d'harmonie ludonarrative ou si En introduisant un petit peu de chaos ou de hasard dans le design, on ne peut pas aboutir à des choses intéressantes. Mais je dois dire que je suis très partielle là-dessus parce que j'aime beaucoup les travaux de Rémi Cayatte, qui est MCF et qui travaille sur ces questions-là. Et je trouve que c'est des manières aussi intéressantes de en fait, voir les différentes possibilités de la narrativité dans les jeux. Et donc, du coup, de se dire, bah, il y a ce chemin-là qui est peut-être très prometteur, il y a celui-ci aussi, et puis après, du coup, ça permet de faire des expériences très différentes, et puis chacun et chacune y trouve son compte, quoi.
Merci beaucoup, Hélène.
Merci pour la discussion.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.